à toutes et à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Mater Radio, un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Chevreul, une fédération de recherche sur la chimie et les matériaux qui donne la parole aux doctorantes et aux doctorants de ces laboratoires. Une émission présentée par moi-même, je m'appelle Elisa Després et je suis chargée de médiation scientifique pour cet institut. Alors aujourd'hui, on va parler de soft robotique et de chimie. Et pour traiter ce sujet, je suis en compagnie de Basile Gauthéron. Bonsoir.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Tu es doctorant en quatrième année à l'UMET, l'unité matériaux et transformations, et au groupe de chimie supramoléculaire de Gand. Ton sujet de thèse s'intitule « Impression 3D de capteurs hydrogel supramoléculaire ». Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que tu fais concrètement ?
Alors ce que je fais concrètement, donc comme tu as dit, je suis en quatrième année de thèse. L'idée de cette thèse, en fait, c'est d'essayer de faire un matériau qui puisse réagir à un stimuli extérieur. Donc pour ça, j'ai une matrice de polymère qui piège à l'intérieur ce qu'on appelle des COF, donc c'est des nanoparticules, des sphères très 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 petites, qui vont réagir à un stimulus extérieur et permettre au matériau à la fin de se contracter pour imiter un peu un muscle. En fait, tout simplement. J'essaie de faire des muscles artificiels.
Pas mal. Donc, on va commencer par discuter de ces fameux COF. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Alors, COF, ça vient de l'anglais Covalent Organic Frameworks. C'est un peu mieux qu'en français, réseau covalent organique. Et en fait, c'est un peu comme à l'image des ruches des abeilles. C'est, pour ma part, des hexagones, un feuillet d'hexagones qui vont s'empiler les uns aux autres pour former à la fin une sphère toute petite, donc de l'ordre du nanomètre. Donc cette sphère, on appelle ça un COF. Et en fait, ces COF, c'est des matériaux qui sont extrêmement intéressants et aussi très récents, puisque on est en 2005. Et ils sont intéressants parce qu'ils sont tout le temps poreux. Donc ils peuvent être utilisés dans pas mal d'applications, comme la délivrance de principes actifs pour les médicaments ou pour stocker de l'énergie, ce qui est très intéressant dans le monde d'aujourd'hui, qui est beaucoup en termes d'électricité et tout ça. Et en fait, ces COF, ils sont utilisés un peu plus dans la science, parce que voilà, grâce à ces propriétés ultra intéressantes, les scientifiques se sont dit, bah, ça pourrait être sympa de les utiliser. Et notamment, dans mon cas, ils seraient utiles pour stocker à l'intérieur des molécules, que je libérerai ensuite quand je voudrais. Et en plus de ça, comme c'est des nanoparticules, ils pourraient permettre d'améliorer l'aspect mécanique de mon matériau final.
Et concrètement, à quoi ils ressemblent ?
Alors concrètement, en fait, c'est le COF, c'est vraiment une particule toute petite qui est faite d'un empilement de feuillets. Donc vous imaginez une feuille A4 dans laquelle vous dessinez des hexagones collés les uns aux autres. Et ça, c'est donc un feuillet de COF. Ensuite, vous les empilez en mettant une toute petite distance entre ces feuilles, vraiment de l'ordre de l'angstrom. Donc c'est plus petit que le nanomètre, hein, on est vraiment très 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 faible comme distance. Et ça, en fait, c'est, ils vont s'empiler les uns sur les autres et jusqu'à former donc une sphère pour ma part. D'autres personnes, ça va être des tubes, des vésicules, donc des sphères creuses. Donc voilà, ça ressemble pour moi à des sphères. Et le matériau final, pour moi, avec le polymère, ça ressemblerait plutôt à un rectangle avec les sphères reliées entre elles par des cheveux.
Très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans ta thèse, il y a un challenge vis-à-vis de ces COF ?
Ouais, exactement. Les COF, c'est quelque chose qui est ultra intéressant pour toutes les propriétés, mais bien entendu, on est en science, donc c'est jamais très facile. Donc il y a toujours un prêté pour un rendu. Donc pour ma part, c'est tout ce qui est, on appelle ça la processabilité. Donc en fait, on ne contrôle pas exactement ce qu'on obtient à la fin. On sait ce qu'on va obtenir, mais si on veut changer un paramètre, on va toucher tous les autres. Donc par exemple, si je veux diminuer la taille de mes particules, forcément je vais réduire la porosité ou un autre paramètre. Et en plus de ça, ils sont très très sensibles à l'eau, ce qui est un peu dommage quand on veut faire des muscles qui veulent imiter l'être humain qui est composé majoritairement d'eau. Donc c'est les deux plus gros problèmes de ma science.
Est-ce que tu as déjà des pistes de solutions et comment tu les recherches, comment tu les as trouvées ?
Alors, pour ce qui est de la processabilité, donc j'ai une première idée. Donc en fait, l'idée, c'était de pouvoir contrôler la taille de mes particules sans toucher au reste. Et je me suis rendu compte que la structure de mes matériaux, la structure des monomères que j'utilise, donc des réactifs que j'utilise, c'était une structure qui ressemblait à celle que j'étudiais quand j'étais en école d'ingénieur et que je pouvais essayer de moduler cette chimie en utilisant la lumière. Et donc, j'ai essayé en irradiant ma solution de base, donc mes réactifs. Je me suis rendu compte que les molécules à la fin, mes COF, étaient plus petits que ceux qui réagissaient dans le noir, mais les propriétés étaient les mêmes. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça n'a jamais été décrit dans la littérature. Comment je l'ai découvert? Donc, dans le premier cas, dans ce cas-là, ça a été une sérendipité. Donc, c'est un coup de bol, comme on peut le dire. Je voulais étudier l'évolution du rayon de mes COF en fonction du temps. Et en fait, en irradiant avec un laser, puisque c'est comme ça que je mesure la taille, je me suis rendu compte que ma réaction n'avait tout simplement pas démarré. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être possiblement dû à la lumière. Donc, j'ai utilisé ce qu'on appelle un photoréacteur. C'est tout simplement plein de lampes dans un endroit fermé. Et là, je me suis rendu compte que il y avait une influence. Et pour ce qui est de l'eau, ce que j'essaye de faire, c'est de stabiliser la liaison imine. Donc, c'est la liaison qui relie mes monomères entre eux. Et pour la stabiliser, j'utilise des molécules, des groupes autour qui vont, entre guillemets, la cacher et l'empêcher de réagir avec l'eau.
Et maintenant, si on passe à la partie polymère, donc on a parlé du COF, si on passe à la partie polymère, déjà, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est un polymère?
Pas de souci. Alors un polymère, le premier terme de polymère, c'est poly, donc c'est plusieurs. Donc c'est un enchaînement de plusieurs motifs qui se suivent les uns après les autres. Et ces motifs, ils doivent être reliés entre eux parce qu'on appelle une liaison covalente. Donc en fait, ils doivent être attachés les uns aux autres. Souvent, pour que les gens imaginent, on utilise l'image d'un collier de perles. Donc vous avez le monomère qui est la perle et le fil en fait qui est la liaison covalente. Donc c'est cette image-là qu'on utilise. Et pour après l'image, on va dire un peu plus générale, un polymère, ça ressemble un peu à un spaghetti. C'est-à-dire c'est quelque chose qui c'est une chaîne de molécules. Et en fait, un matériau polymère, c'est un ensemble de spaghettis, donc c'est le plat final.
On a parlé de monomère juste avant. Est-ce qu'il y a une différence entre un polymère et un monomère?
Le monomère, c'est la base du polymère, en fait. Le monomère, c'est justement ce que j'appelais l'unité de répétition. Il faut plusieurs monomères pour faire un polymère.
Dans ton matériau, donc il y a un polymère qui s'appelle Petox. C'est un polymère assez récent, c'est ça?
Assez récent, oui. Enfin, on essaie de l'utiliser de plus en plus. Il vient de la famille des polyoxazolines. Donc son petit nom, c'est Petox, mais c'est pour poly-2-éthyl-2-oxazoline. Mais c'est très long à écrire et très long à dire, donc on dit le terme Petox. Ouais. C'est un matériau qui est plutôt récent et qu'on aime bien utiliser parce qu'en fait, il a tendance à remplacer maintenant le PEG qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé dans la chimie médicale. Et en fait, c'est un polymère qu'on retrouve un peu partout parce qu'il aide en fait à cacher ce qu'on veut cacher au corps. En fait, c'est quelque chose qui est hydrophile, donc qui aime bien l'eau. Et en fait, on cache des choses à l'intérieur pour que le corps n'essaye pas de le détruire tout de suite.
D'accord. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de résistance qui s'est créée par rapport au PEG?
Eh oui. En fait, on l'a tellement utilisé qu'au bout d'un moment, le corps, c'est une magnifique machine et il s'est dit, tiens, ça ressemble vraiment à quelque chose que je ne connais pas. Et dès que le corps a quelque chose qu'il ne connaît pas, il essaye soit de le détruire, soit de l'accepter. Et dans notre cas, il a décidé de le détruire. Et pour la petite anecdote, lorsque vous avez fait votre vaccin contre le Covid récemment, on vous a demandé d'attendre 15 minutes après le vaccin. Et c'est pas par plaisir, c'est juste parce que en fait, les gens ont commencé à devenir allergiques au PEG. Et on voulait juste vérifier si vous n'aviez pas un choc anaphylactique, pour éviter justement d'avoir des complications.
Et comment on peut estimer que le Petox est similaire au PEG sans être exactement la même chose?
En fait, les deux sont des polymères, effectivement. Les deux sont des polymères hydrophiles, donc qui aiment l'eau, mais ils n'ont pas la même structure. Donc un PEG, si vous voulez vraiment l'imaginer, comme je le disais, c'est vraiment un spaghetti. C'est une chaîne, c'est un cheveu, c'est droit, c'est une structure qu'on connaît. Si vous voulez vraiment l'explication, c'est un carbone lié à un carbone lié à un oxygène. Pour le Petox, en fait, c'est pas les mêmes fonctions, c'est pas la même structure. C'est un spaghetti avec une petite chaîne pendante au-dessus. Donc, en fait, il aura pas les mêmes structures. Et comme on l'a moins utilisé, le corps, il va pas réagir de la même façon, en fait. On dit que c'est un pseudo-peptide parce qu'il ressemble à des peptides, mais c'est pas la même structure. Donc, potentiellement, le corps l'accepte plus facilement que le PEG.
Le fait qu'il y ait une chaîne supplémentaire, ça ajoute dans ton matériau un élément?
Ouais, parce que le PEG, en fait, comme je le disais, il est un peu nu. Il est beaucoup utilisé, mais on peut pas vraiment le modifier. Alors que moi, la chaîne pendante, c'est quelque chose que moi et beaucoup de scientifiques, on aime bien parce qu'en fait, on peut la modifier soit de base, soit après, et on peut apporter des nouveaux motifs ou des nouvelles fonctions à mon polymère. Et en fait, cette chaîne pendante, en fait, elle rajoute ce qu'on appelle de l'hydrophobie, donc elle va moins aimer l'eau. Et dans certains cas, on peut carrément rendre le matériau hydrophobe.
Ok.
Donc, ce qui est bien parce que moi, j'aime pas l'eau, et donc c'est pratique.
Donc on a parlé du polymère, on a parlé du COF. Est-ce qu'il y a une interface entre ces deux éléments ?
Effectivement. Comme je le disais, tout mon matériau va être lié de façon covalente. Donc en fait, c'est des liaisons où les atomes échangent des électrons entre eux pour essayer d'être liés le plus fort possiblement entre eux. Et en fait, moi, je vais essayer que ma nanosphère, donc ma toute petite boule, soit liée de façon covalente au polymère. Donc en fait, il est vraiment comme quand vous vous tenez la main avec quelqu'un, qui est vraiment une liaison qui soit présente. J'ai pas envie qu'il soit lié par des petites interactions. Je veux vraiment que cette interaction soit la plus forte possible pour avoir un matériau qui soit le plus fort possible, mécaniquement parlant.
Et donc, une fois que ce matériau est créé, concrètement, qu'est-ce qui se passe ?
Bah concrètement, en fait, il y a deux choses qui vont se passer. Déjà, d'un point de vue matériau, l'aspect mécanique va être renforcé parce que lorsque vous mettez des nanosphères dans le matériau, tout l'aspect mécanique va être meilleur que le matériau à nu. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, je vais essayer de mettre dans mes nanosphères une molécule qui sera cachée, puisqu'elle sera dans la boule, elle sera cachée du polymère. Et en l'illuminant, je vais essayer de faire en sorte que cette molécule soit libérée et aille réagir avec le polymère présent, donc l'ensemble du matériau, et que le polymère puisse ensuite se contracter. Et là, ça ressemblera à un vrai muscle, puisqu'il se contractera comme on le fait quand on veut, par exemple, lever le bras.
Si on se réfère au titre de ta thèse, on parle d'impression 3D. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça intervient du coup dans ce projet ?
Alors ça intervient à la toute fin. Alors c'est pas l'impression 3D que l'on voit comme partout ou qui a explosé d'un point de vue industriel. Donc c'est l'impression filament, là où vous avez un matériau polymère de base et vous venez le fondre et il revient se former une architecture complexe. Moi, dans mon cas, c'est en fait une impression couche par couche où je viens illuminer une couche de monomère, de mes réactifs, qui vient former au fur et à mesure l'architecture complexe. Donc, c'est pas exactement la même technologie, mais c'est la même idée. C'est qu'à la fin, on obtient une architecture complexe. Donc, c'est pour ça que j'utilise, parce qu'on peut faire des choses un peu plus belles, avec des architectures un peu plus complexes. Et ça intervient à toute fin parce que voilà, on veut essayer d'avoir un matériau final qui soit le plus beau d'un point de vue esthétique possible, et on veut avoir des architectures voilà qui puissent ressembler à quelque chose à la fin. Si je veux par exemple faire un muscle qui puisse ressembler à un muscle, si je veux faire une boule qui puisse ressembler à une boule, voilà, ça intervient à la fin. Parce que si je le faisais dans un contenant, par exemple disons un vial ou un verre, ben, ça ressemblerait tout simplement à la géométrie du vial. Alors que là, en fait, avec la même machine, je peux faire ce que je veux.
Très bien. Et justement, si on fait le point sur ce qui est possible de dire ou non par rapport à ton travail, concrètement, tu es à quel point d'avancement dans cette thèse ?
Ouh, difficile à dire. En fait, je suis le premier dans ce projet-là. Donc on va dire d'un point de vue processabilité, l'étude de la lumière, on va dire que je suis à 90% du projet.
Okay.
J'ai deux autres projets à côté, donc justement faire réagir ma nanosphère avec le polymère, là je suis au début, parce que j'ai fait plusieurs tests avec plusieurs polymères, tailles, etc. Donc on va dire que je suis à 50%. Et j'ai un troisième projet... justement qui venait pour améliorer la stabilité de la liaison imine. Et là, on peut pas réellement dire que j'ai un avancement parce que en fait, ça sera jamais réellement fini. Mais dans mon cas, voilà, je suis à, on va dire, 30%.
Ok. Tu nous parlais de tests, d'expérimentation. Justement, à quoi ça ressemble concrètement ton quotidien quand tu fais des tests sur les polymères, sur les coffres?
Ben, ce qui est bien, c'est qu'il ressemble jamais au jour d'avant et il ressemblera jamais au jour d'après. parce que même si la réaction en elle-même elle est tout le temps la même, donc c'est assez simple, je prends mes deux réactifs, je les mets en contact avec mon catalyseur, parce que sans catalyseur, dans mon cas, ma réaction ne marche pas. Ça, en fait, ça me permet de faire mes sphères. Et en fait, ces sphères, ensuite, je les analyse moi-même grâce à toutes les machines que l'on a à l'Institut Chevreul, ce qui est plutôt agréable. Et en fait, je fais tout ce qui est COF à Lille, puisque c'est là où ma directrice de thèse, Gaëlle Lefer, est présente, et c'est elle qui est un peu l'experte dans ça. Et pour tout ce qui est polymère, bah, je vais à Gand. J'utilise ce qu'on appelle une boîte à gants. Avec un magnifique jeu de mots qui n'est pas fait exprès. Mais en fait, c'est une boîte qui me permet de faire mes réactions dans une atmosphère où il n'y a peu ou pas d'eau et peu ou pas d'air. Parce qu'en fait, tout est sensible à l'eau. Et en fait, à la suite de ça, tous les jours, je fais des réactions. Et je les analyse en utilisant pas mal de techniques, que ce soit de la microscopie ou des techniques classiques pour analyser les polymères ou les COF. Et ensuite, je vérifie mes résultats, je les analyse, et ensuite, à la suite de ça, j'essaye de me dire, bon, bah, est-ce que l'idée que j'ai eue là était la bonne? Est-ce que je change d'idée, etc.
Très bien. Bah, merci Basile pour ces premières réponses. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec le morceau « Take me to the beach » de Imagine Dragons. A million people saying how to plan it. I can no longer stand it. Gonna spend my days telling them to can it. Each one do their own. Got a salesman ringing my phone. Tell me where to go. No, I don't wanna hear the down low. Nothing out of penny, never wanna hear you preach. No. Pour cette deuxième partie de cet épisode de Mater Radio sur Radio Campus, je suis toujours en compagnie de Basile, un doctorant de quatrième année. Alors je te propose maintenant qu'on revienne un peu sur ton parcours, sur tes motivations. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà quel parcours scolaire tu as suivi ?
Avec plaisir. Donc, on va remonter au lycée. Hein, c'est
pas mal.
Plus loin après, c'est pas très intéressant. Donc j'ai fait un lycée... on va dire classique. J'ai fait bac S, donc c'était le S, vous ne connaissez plus maintenant, mais c'était le S pour scientifique et c'était la spécialité physique-chimie, parce que depuis tout petit j'aime bien les sciences et notamment la physique-chimie. À la suite de ça, en fait, je suis parti en classe préparatoire aux grandes écoles pour au départ devenir pilote de ligne. Parce qu'au départ, je voulais voler. Je tenais ça de ma mère, qui elle aussi voulait devenir pilote de ligne. Donc je suis parti, j'étais à Dax pour mon lycée dans le sud-ouest et je suis parti à Bayonne. Et en fait, en passant en première année le concours, donc l'école de pilote de ligne, c'est l'ENAC, la plus connue. Pour me féliciter d'avoir eu des bons résultats au concours, je ne l'ai pas eu, mais j'avais des bons résultats. Mes parents m'avaient offert un simulateur de vol avec un vrai pilote de ligne. Et ça ne m'avait pas plu du tout. Il m'avait expliqué que la plupart du temps, il utilisait le pilote automatique. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je change de voie. Et là, mon prof de chimie est apparu. Il m'a fait découvrir la chimie des polymères. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, on peut faire n'importe quoi avec. La plupart des temps, les gens appellent ça plastique. Mais les polymères, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, je me suis tourné vers ça. Je suis parti pour faire une grande école, comme on dit. Donc, une école d'ingénieurs à Bordeaux qui s'appelle ENSCBP pour chimie, biologie, physique. Maintenant, elle s'appelle ENSMAC pour matériaux, aliments et chimie, si je me souviens bien. Donc, je suis parti pour 3 ans. J'ai fini donc avec ce qu'on appelle un master. Et en fait, à la fin, je me suis dit, dans ma vie, je veux devenir ingénieur en recherche et développement dans l'industrie. Pour ce faire, la plupart des personnes ont à peu près le même profil. Donc, ils ont une thèse, notamment dans des grandes entreprises comme Saint-Gobain ou L'Oréal. Ils ont tous des thèses. Donc, je me suis dit, pour ma carrière, ça serait bien de faire une thèse. Et en plus de ça, la thèse, c'est on dit souvent que c'est le plus haut diplôme. Après, il y a ce qu'on appelle aussi l'HDR qui permet de diriger une thèse. Et je me suis dit, d'un point de vue personnel, j'aimerais bien aussi voir ce que je vaux face à une thèse, puisque c'est quand même 3 ou 4 ans où on bosse sur un matériau ou sur un sujet de pointe et où on essaye d'apporter un peu plus de connaissances à tout ce qu'on connaît. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Et je suis venu ici à Lille.
Justement, tu l'as dit, tu es dans ta 4e année, c'est peu commun. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu dois faire 4 années?
En fait, moi, je suis pas exactement un doctorant. Je suis un doctorant en co-tutelle, donc entre la France et la Belgique. Donc, comme je disais, je fais des expériences à Gand, donc c'est en Belgique, à 40 minutes de Lille, ce qui est plutôt agréable. Et en fait, en Belgique, le modèle de la thèse n'est pas comme en France. En France, on est l'un des seuls pays à avoir des thèses en 3 ans. Et en Belgique, ils préfèrent le faire en 4 ans. Donc, lorsque j'ai signé mon contrat, ils ont voulu tout faire à la mode belge, on va dire. Donc, c'est-à-dire que je pars pour 4 ans. J'ai fait 3 ans à Lille. Et la semaine dernière année, j'habite à Gand désormais. Je travaille principalement à Gand. Et pareil, pour ce qui est ma soutenance, je vais faire des soutenances comme en Belgique. Donc, j'ai une soutenance dite interne, où là, je suis seul face à mes membres du jury et à mes directeurs de thèse. Et ensuite, la soutenance dite publique, c'est celle que l'on retrouve en France aussi, où là, en fait, c'est un mélange entre vulgarisation et réel échange scientifique, où en fait, le but du jeu, c'est qu'il y ait un public et le public puisse comprendre que j'ai fait de la chimie, qu'il puisse comprendre cette chimie, mais en même temps que les membres du jury trouvent cela agréable et assez pointu.
C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, finalement.
Voilà, exactement, exactement.
Est-ce que c'est avantageux? Enfin, en quoi c'est avantageux d'avoir cette co-tutelle?
C'est avantageux, déjà, d'un point de vue d'un point de vue professionnel, d'un point de vue chimique, parce que déjà, je me retrouve avec 2 directeurs de thèse complètement différents. L'un est néerlandais, l'autre est française. Donc, c'est-à-dire 2 points de vue différents, 2 parcours différents. En plus, j'ai la chance, parce que c'est un projet où c'est, on va dire, désolé Richard, un vieux scientifique avec une jeune scientifique prometteuse, et donc ça me permet d'avoir quelqu'un qui a déjà des bagages et quelqu'un qui monte. Donc c'est-à-dire que j'ai deux approches différentes, ça me permet d'avoir 2 laboratoires différents aussi, donc des technologies différentes un peu partout. Et d'un point de vue humain, c'est aussi génial, parce que j'ai vécu toute ma vie en France comme beaucoup d'entre nous. Et le fait de pouvoir vivre 1 an en Belgique, du côté flamand en plus, donc ça parle néerlandais et ou flamand, c'est quelque chose qui est super enrichissant, parce que je me retrouve à devoir parler anglais tout le temps. J'essaie d'apprendre le flamand, ce qui est un peu compliqué, mais ça me permet de voir de nouvelles expériences et de découvrir aussi de nouvelles personnes.
Justement, c'est ce qu'on voit dans ton parcours, c'est que tu as habité dans différentes villes. Est-ce que pour toi c'est indispensable dans l'univers de la recherche d'avoir justement ce bagage au niveau des voyages?
Déjà, d'un point de vue pratique, il faut savoir que la science, la langue que l'on utilise, c'est l'anglais. On publie en anglais, la plupart du temps on fait des conférences en anglais, puisque nos collègues parlent aussi anglais, donc on essaye d'être ça. La plupart des laboratoires ont pas mal de scientifiques étrangers, donc on parle beaucoup anglais aussi dedans. Et aussi, ça permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit, je trouve, de voyager qui est géniale, parce que en bossant tout le temps au même endroit avec les mêmes personnes, souvent on finit par avoir les mêmes états d'esprit, les mêmes vision des choses. Alors c'est pas forcément péjoratif, hein. Il faut des équipes qui parlent la même langue et on va dire qui font la même chimie, mais c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort et de voir des personnes qui ne bossent pas du tout comme nous, ce qui est le cas en Belgique où il n'y a pas d'ingénieurs ou de techniciens. En fait, c'est le professeur, les post-doctorants, donc c'est les personnes qui ont une thèse et qui font des projets juste après la thèse, et les thésards. Donc c'est vraiment comme une pyramide et en fait on se retrouve beaucoup plus seul. On se retrouve plus en autonomie qu'en France, où là, vraiment, il y a des ingénieurs un peu partout qui peuvent nous aider dès qu'on veut faire quelque chose.
Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui a peur, justement, de déménager dans une autre ville ou dans un autre pays ?
Alors, pour moi, ça a été plutôt facile parce que j'ai beaucoup déménagé. Mais je peux comprendre que voilà, les amis, la famille, on aime bien les avoir proches. Mais maintenant, au jour où on a Internet, au jour d'aujourd'hui, on a Internet, on a la possibilité d'avoir WhatsApp un peu partout. C'est quelque chose pour moi qui serait un peu dommage. C'est des expériences où on se retrouve à voir des paysages magnifiques, à rencontrer de nouvelles personnes. Donc je dirais aux gens, voilà, il ne faut pas avoir peur, même si c'est pour un an, deux semaines, un mois ou même toute une vie. C'est quelque chose qu'il faut au moins essayer. Ça peut ne pas vous plaire, ça c'est tout à fait compréhensible. Mais il ne faut pas se dire, mince, j'y arriverai pas parce que je ne parle pas forcément anglais ou parce que j'ai peur de quitter ma famille. Parce que les gens aussi, dans d'autres pays, ont aussi peur de partir comme nous. Et donc, parfois, la plupart du temps, ils se disent, bah tiens, il a fait l'effort de venir dans mon pays, donc je vais essayer d'être aussi gentil avec lui. Et moi, ça a été le cas. Ils m'ont vu arriver avec mon petit accent français. Et ils se sont dit, bah tiens, on va être aussi gentil que possible parce que bah, si moi j'allais en France, j'aimerais bien qu'il soit aussi gentil.
On va finir cette interview avec la dernière question qu'on pose à tous les doctorantes et doctorants qui viennent nous voir. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui seraient intéressés pour faire de la recherche ?
De foncer. Vraiment, allez-y. Y a la recherche, ça touche tout le monde. Et alors que ce soit fille ou homme, on manque de filles, donc n'ayez pas peur de venir. Et vraiment, venez, vous trouverez forcément un métier qui vous plaît et un domaine qui vous plaît. Faut pas avoir peur. Vous n'êtes pas obligé de faire une thèse pour aller dans la recherche. Vous pouvez faire n'importe quel métier. Et foncez, et si ça vous plaît pas, vous trouverez forcément votre bonheur à un moment donné.
Merci Basile pour toutes tes réponses et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez cette interview en podcast sur notre site internet. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine Maté Radio. Bonne soirée à toutes et à tous.